Voilà, donc c'est la troisième halte sur Jésus, sur le Verbe de Dieu fait homme. Alors, la première, c'était sur Jésus, hein, le nom de Jésus. La deuxième, sur Jésus, vrai Dieu. Et celle-ci, vrai homme. Donc, c'est à peu près clair jusque-là. Le but de ces enseignements, alors, il peut y avoir un côté un peu austère, hein, vous verrez. Vous avez déjà vu la dernière fois. L'idée, c'est de mieux connaître Jésus pour mieux l'aimer. Hein. Mais du coup, on a besoin quand même de faire travailler un peu notre intelligence, etc. Et vous verrez que ce n'est pas du premier coup que les uns et les autres, que les pères de l'Église ont pu préciser leur pensée sur qui est Jésus. Hein, c'est quand même pas... vous verrez. Deuxième chose, ça rejoint la première, c'est que Le but, c'est pas de compliquer les choses. Hein, c'est pas de compliquer les choses. Mais, en même temps, c'est de pas avoir des raccourcis un peu trop simplistes. Il y en a qui trouvent que ça fait trop trois dans la Trinité, on n'y comprend rien, allez, on ne parle plus de la Trinité. Ben non. Où Jésus commande une seule personne, mais deux natures, mais... Alors, le lien avec la Trinité, tout ça, ça peut nous paraître un peu compliqué. Mais en fait, le but, c'est d'accueillir. C'est pour ça que les pères de l'Église, ça a pris du temps. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas quelque chose qui est sorti de l'esprit des gens, ou des apôtres, ou des pères de l'Église. C'est simplement d'essayer de comprendre ce que Dieu nous a révélé. Et alors, il nous faut quelquefois un peu de temps pour comprendre. Il a fallu au moins 8 siècles pour comprendre à peu près, donc on a un peu de temps devant nous. Alors, aussi au niveau des termes, alors peut-être que ce n'est pas assez précis les termes que j'emploie, je parle souvent de Jésus. Alors, quelquefois on emploie Jésus pour parler plutôt du Verbe de Dieu dans sa nature humaine. Alors sinon, on peut parler du Verbe de Dieu qui a assumé une nature humaine. Bon, c'est un peu un raccourci, mais je parle de Jésus. On pourrait parler de Jésus-Christ, on pourrait... Voilà, mais bon, vous ne vous formaliserez pas sur les mots que j'emploie. Alors, mes sources, je ne les cite pas toujours, mais en fait, c'est un patchwork de choses que j'ai recopiées par-ci, par-là, grosso modo. Je les ai mises à ma sauce. Hein. C'est comme... Alors, c'est mieux que des restes, hein, mais... C'est comme une cuisinière, elle accommode, elle prend différents ingrédients et puis elle fait son gâteau. Alors, je vais essayer de vous donner un bon gâteau aujourd'hui. Alors, je vais puiser dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, c'est notre première source. Enfin, pas la première c'est la Bible. Mais le catéchisme systématise un petit peu ce que d'autres ont pu découvrir dans la Bible. Donc, voilà. Donc, la première source, bien sûr, c'est la Bible, toujours, la parole de Dieu, toujours. Mais après, il y a le catéchisme, je me réfère aussi... Benoît XVI, notamment, d'abord dans son livre sur Jésus de Nazareth, mais aussi dans une méditation qu'il a faite devant les prêtres de Rome le 18 février 2010. Une méditation sur l'Épître aux Hébreux qui est très belle. Voilà. Et puis aussi de Raniero Cantalamessa, vous connaissez de nom, hein, c'est le prédicateur de la maison pontificale, je crois depuis 1980, donc il est plus tout jeune, hein, de plus de 40 ans, qui prêche devant le pape pendant l'Avent et le Carême, et qui prêche le Vendredi Saint à Saint-Pierre, etc. Donc, il a écrit un certain nombre de livres, dont celui-ci, « Jésus-Christ, le Saint de Dieu ». Voilà. Après ces préliminaires, j'entre dans le vif du sujet, par l'introduction. Alors, déjà, se resituer un petit peu dans l'histoire. Donc, le sujet, c'est Jésus, vrai homme. Et la dernière partie, je parlerai du Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression ? Parce qu'on rencontre quelquefois, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression ? Mais donc, en guise d'introduction, du temps de Jésus, il ne mettait pas du tout en doute son humanité. Ils mangeaient avec lui, ils avaient vu Marie, Joseph, tout ça. Donc, ça leur faisait aucune difficulté de dire de Jésus qu'il était vrai homme. Ça faisait aucune difficulté. C'est plutôt quand il se déclare Dieu, alors là, ça faisait difficulté. Et du coup, il a été crucifié. Mais le fait qu'il soit vrai homme, au point de départ, ça faisait aucune difficulté. Donc on parle plutôt que de parler de... Parce que c'est une évidence pour tous qu'il était homme, hein, pour tous ceux qu'il rencontrait. Mais donc on parle plutôt du Saint de Dieu, alors c'est le titre du livre, mais pour dire que c'est une humanité parfaite, en tout cas déjà au sens moral, que c'était celui qu'on était appelé imiter, etc. Voilà. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que assez vite quand même, ça pas quelques dizaines d'années seulement après Jésus, on a commencé à mettre en doute son humanité. Ce qui était impensable pour ceux qui avaient vécu, donc c'est venu assez vite. Alors on appelle ça, entre autres, le docétisme. Et déjà, on le voit dans les lettres de Saint Jean, certains nient que le Christ soit venu dans la chair. Voilà. Et du coup, il voit ça plutôt comme une apparence. Alors, il y en a parmi les premières hérésies, alors il y en a toute une flopée d'hérésies, hein, si vous voulez, il y en a avec chacune ses nuances propres. Mais il y en a qui disaient, non, de toute façon, c'est pas possible. Jésus, au baptême, toc, et c'est Dieu qui investit une humanité, et puis après, au moment de la croix, il sauve avant de mourir sur la croix. Et c'est juste son déguisement, en quelque sorte, humain, qui aimait Dieu ne peut pas mourir. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a aussi toute la pensée grecque. C'est intéressant de le voir un petit peu, que selon la culture dans laquelle on vit, il y a des choses, on a du mal à les croire, ça a du mal à rentrer dans notre tête, parce qu'on est tellement imprégné d'une culture... qu'on dit non, c'est pas possible. C'est que quand on pense quand même quelques dizaines d'années seulement après la mort de Jésus, il commence déjà à nier son humanité. Mais pourquoi il nie son humanité? Parce que il y a, je crois, beaucoup sous l'influence grecque. Parce que pour les Grecs, Dieu ne change pas, Dieu est immuable. Hein, c'est dans la philosophie grecque, etc., qui est très belle par ailleurs, mais Dieu ne peut pas changer, tout ça. Donc, que Dieu soit mort sur la croix, c'est impensable. Pour les Grecs, toujours, la matière, non, ce qui est beau, c'est l'esprit, mais la matière, non. Alors, de penser que Dieu, ou le corps, c'est la prison de l'âme, etc. Alors, d'imaginer que Dieu s'est fait chair, c'est impensable. Donc, on nie son humanité. Non, il a pris une apparence, mais pas vraiment quand même, parce que c'est pas digne de Dieu. Et puis, non seulement c'est la matière, le corps, c'est la prison de l'âme, mais la matière, c'est le domaine des forces mauvaises. Hein, Alors, du coup, tous ces éléments, donc. Pour eux, ils associent le péché, la matière au péché, etc. Donc c'est impensable. Donc vous voyez que je le dis maintenant parce que vous verrez qu'on a une pression culturelle qui est très différente aujourd'hui, mais qui ne nous aide pas à reconnaître vrai Jésus, vrai homme, dans toute sa... Qu'est-ce que ça veut dire, vrai homme? Donc ça va être ma première partie. La foi en Jésus vrai homme. Mais selon la culture dans laquelle on vit, c'est plus ou moins facile à accepter. Et on voit pour quelques décennies après la mort de Jésus, déjà ils mettent en doute son humanité, alors que ceux qui vivaient avec lui, les apôtres, ça ne leur mettait pas en doute une seconde, ne leur mettait pas en tête une seconde le fait de... oui, non, il est homme, c'est évident. Ah, bon, voilà. Alors... La foi en Jésus, vrai homme. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vrai homme? Les pères de l'Église ont travaillé pour dire qu'est-ce que ça veut dire, vrai homme. Ben déjà, déjà, quand Saint Jean dit le Verbe s'est fait chair, il ne dit pas exactement le Verbe s'est fait homme, mais la chair, c'est tout ce qu'on a de faible aussi en nous. Hein, la chair dans le langage de Saint Jean, c'est il a pris notre humanité avec toutes ses faiblesses aussi. Alors, quelles faiblesses, on verra un peu plus loin, mais du coup, c'est d'abord ce qui saute aux yeux, c'est quand on parle du verbe se fait chair, bon, c'est qu'il a pris un corps. Mais il n'a pas seulement pris un corps, hein, Dieu qui s'est fait homme, c'est pas simplement un corps humain qu'il a pris. C'est aussi une psychologie humaine. Hein, on voit Jésus qui pleure, etc. On voit devant le tombeau de Lazare, on voit Jésus qui se met en colère. Ça, c'est pas uniquement le corps, c'est aussi toute la sensibilité. On voit aussi l'intelligence humaine de Jésus, de voir, il a appris à lire, à écrire, voilà. Et ça, c'est une intelligence humaine, Dieu qui, pourtant, il aurait pu s'en passer en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, il a appris tout ça. Donc, se faire homme, c'est tous ces éléments aussi. Et c'est le concile de Chalcédoine qui dit que il s'est rendu en tout identique à nous, hormis le péché. Alors, toujours dans cette veine, oui, j'ai sauté quelques petites choses, c'est pas grave. Oui, c'est cette connaissance de Jésus qui a dû apprendre, qui a. Alors, c'est Saint-Luc qui nous dit. Qu'il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Dieu, il ne change pas, Dieu, il est immuable. Mais dans son humanité, Jésus a changé. Alors, un autre point où Jésus est proche de nous, il a été tenté aussi. L'épisode des tentations au début de la vie publique de Jésus. Et l'Épître aux Hébreux dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché. » Vous pourrez aussi lire le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, là, versets 9 à 18. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareilles conditions. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu. Alors c'est le concile qui nous dit « Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. » Il y a toujours ce « hormis le péché ». Alors, justement, c'est le point qui fait difficulté aujourd'hui. Alors, donc, Jésus qui a pris tout dans notre humanité, mais hormis le péché. Et actuellement, là, une manière de comprendre, quand on dit que quelqu'un est humain, ça peut être un peu ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est humain? Ça veut dire qu'il a des sentiments ou ça veut dire que il fait des choses pas bien comme tout le monde? Alors certains vont jusqu'à dire, mais soi-disant des théologiens, mais voilà, il a aussi la possibilité de commettre des erreurs. Mais ça, non. Ça, non. Jésus ne commet pas d'erreurs. Et a fortiori, pas de péché. Mais alors, on est quand même dans cette. Il y a un courant de pensée, mais c'est notre culture aujourd'hui qui veut qu'être humain. C'est bon, voilà, on n'est pas forcément toujours au top, on est voilà. Mais non, c'est pas ça être humain. Justement, c'est important de le film la tentation, la dernière tentation du Christ. C'est justement dans ce courant, voilà. Alors, En plus, c'est pas très réaliste, parce que Jésus qui est des tentations contre la pureté, au moment où il est sur la croix, il a autre chose à penser, à mon avis, sur la croix, pendant qu'il agonise, à mon avis. Mais en plus, c'est... Alors, pour dire les choses autrement, c'est saint Augustin qui dit ça. Voilà. Alors, comme ils n'étaient pas disposés à abandonner leurs vices, tels que l'adultère et le vol, qu'ont fait les païens ? Dans leur mythe, ils ont attribué ces mêmes vices à leur divinité, afin de se considérer comme excusables de les commettre. Voilà. Alors, c'est une manière détournée de dire, bah, il est humain, bon, allez, j'ai fait quelques péchés, mais ce n'est pas si grave que ça. Non, non. Ça revient toujours, cette incise, hormis le, semblable à, en tout à nous, mais hormis le péché. On n'est pas plus humain en péchant. Et justement, parce que le péché n'appartient pas à la nature humaine, au contraire, ça nous abîme. Et c'est Jésus qui a la plénitude de l'humanité. Hein. Vous vous rappelez cette expression de Pilate, « Voici l'homme, ecce homo ». C'est parce que c'est vraiment l'humanité, l'homme par excellence, Jésus. Mais on voit les courants philosophiques, parce que quelque part on voit une forme d'antagonisme entre Dieu et l'homme. On a l'impression que Dieu enlève quelque chose à l'homme. Je vous cite, c'est Sartre. C'est l'homme qui veut être vraiment maître de lui-même et pas dépendre de Dieu. Si Dieu existe, l'homme n'est rien. Dieu n'existe pas. Joie, pleurs de joie, alléluia, plus de ciel, plus d'enfer, rien d'autre que la terre. Il n'y a plus rien au ciel, ni bien, ni mal, ni personne pour me donner des ordres, car je suis un homme et tout homme doit inventer son chemin. Ça, c'est Sartre. Mais vous voyez où ça mène. Mais du coup, comme s'il y avait une opposition entre le fait d'être... on ne peut pas être homme s'il y a Dieu. Du coup, mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement Jésus, le Verbe de Dieu qui se fait homme. Bien sûr, il peut, c'est le lieu par excellence où on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être Dieu et d'être homme. Et du coup, c'est intéressant de voir que Jésus, c'est l'homme nouveau. Alors, c'est saint Paul qui parle souvent de l'homme nouveau, où il parle du nouvel Adam, etc. Justement, Dieu a révélé l'homme nouveau, celui qui a été créé selon Dieu, dans la justice et dans la véritable sainteté. Du coup, être homme, c'est, on est d'autant plus homme qu'on correspond au projet de Dieu sur nous. On n'est pas d'autant plus homme qu'on s'oppose à Dieu. Mais dans notre culture, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Donc Jésus, c'est le premier-né de toute créature, comme dit saint Paul. Et c'est à lui que nous sommes appelés à ressembler. Alors je vous cite Benoît XVI. Ça, c'était d'une audience en 2013, juste avant sa renonciation. Alors il cite le Concile, entre autres. Avec l'incarnation du Fils de Dieu a lieu une nouvelle création qui donne la réponse complète à la question « Qui est l'homme ?» Ce n'est qu'en Jésus que se manifeste de manière accomplie le projet de Dieu sur l'être humain. Il est l'homme définitif selon Dieu. Le Concile Vatican II le réaffirme avec force. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Dans cet enfant, le Fils de Dieu contemplé dans le Noël, nous pouvons reconnaître le véritable visage non seulement de Dieu, mais le véritable visage de l'être humain. Voilà. Du coup, c'est intéressant de voir Jésus vrai homme, ben, ça nous montre aussi ce que c'est qu'un vrai homme, en contemplant Jésus. Et alors je continue, je puisse dans Raniero, quant à la Messa. L'expression « excepté le péché », hormis le péché, appliquée à Jésus, n'apparaît pas comme une dérogation à l'humanité plénière et définitive du Christ, comme s'il était en tout un homme véritable comme nous, excepté une chose, le péché, comme si le péché était un trait essentiel et naturel de l'homme. Loin de déroger à la pleine humanité du Christ, l'excepté le péché constitue le trait distinctif de sa véritable humanité, parce que le péché est la seule superstructure, l'unique adjonction illégitime au projet divin sur l'homme. Jésus est donc vrai homme, non pas malgré qu'il ait le fait qu'il est sans péché, mais justement parce qu'il est sans péché. Et du coup, quand on parle de nouvel Adam, etc., c'est vraiment le Christ qui est la mesure de notre humanité. Et c'est pas nous qui vrai homme, il devient pas homme comme nous sommes hommes blessés par le péché, etc. Mais il nous redonne l'humanité pleine et entière telle que Dieu l'a désirée dès le départ. Alors je vous cite une lettre de Benoît XVI. Enfin, la lecture de Benoît XVI auprès des prêtres de Rome. Alors, dans cette lecture, vous pouvez la retrouver sur Internet assez facilement, si vous voulez. C'est, vous savez peut-être, ou je ne sais pas si vous savez, mais ce que vous savez, c'est que le pape, c'est l'évêque de Rome. Ça, oui, jusque-là, ça va. Et puis le jeudi des cendres, donc le lendemain du mercredi des cendres, le pape traditionnellement reçoit les prêtres de Rome, de son diocèse, en audience au Vatican. Et c'est à cette occasion, donc aux prêtres de son diocèse, que le Benoît XVI avait fait une belle méditation sur le sacerdoce à partir de l'Épître aux Hébreux. Et alors, entre autres, voilà ce qu'il dit. Alors, il dit surtout, j'y reviendrai un petit peu plus loin, que le prêtre est appelé être médiateur. Alors, le seul médiateur, c'est Jésus, mais que le prêtre, à la suite de Jésus, doit aussi être un médiateur, en quelque sorte, entre Dieu et les hommes. Il est là comme un pont entre Dieu et les hommes, théoriquement, en tout cas. Et alors, du coup, ça suppose qu'il soit à la fois homme et qu'il soit autorisé par Dieu. Alors, j'y reviendrai après. Mais du coup, donc, il insiste sur le fait que le prêtre doit être homme. Et alors, il médite sur cette question-là. Le prêtre doit être homme, homme dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il doit vivre une véritable humanité, un véritable humanisme. Il doit avoir une éducation, une formation humaine, des vertus humaines, il doit développer son intelligence, sa volonté, ses sentiments, ses affections. Il doit être réellement homme. Homme selon la volonté du Créateur, du Rédempteur, car nous savons que l'être humain est blessé. La question de ce qu'est l'homme est obscurcie par le fait du péché qui a blessé la nature humaine jusque dans ses profondeurs. Ainsi, on dit, il a menti, il est humain. Il a volé, il est humain. Mais ce n'est pas ça la véritable nature de l'être humain. Humain signifie être généreux, être bon, être homme de la justice, de la véritable prudence, de la sagesse. Donc sortir avec l'aide du Christ de cet assombrissement de notre nature pour arriver à être véritablement humain à l'image de Dieu. C'est un processus de vie qui doit commencer dans la formation au sacerdoce, mais qui doit se réaliser ensuite et continuer tout au long de notre existence. Alors, bon, ça, il le dit à ses prêtres qui doivent être, mais il peut le dire aussi à chaque baptisé. Vous devez être des êtres humains, pleinement humains, à l'image de Jésus. Et j'aime bien cette manière de... Et alors, il continue encore. La lettre aux Hébreux souligne une particularité de notre humanité qui nous surprend quand elle dit « ce doit être une personne ». Donc, c'est la lettre aux Hébreux qui dit ça. Une personne en mesure de comprendre ce qui pêche par ignorance ou par égarement, car elle est lui aussi remplie de faiblesse. Et ensuite, de manière encore plus forte, pendant les jours de sa vie mortelle, il a présenté avec un grand cri dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Pour la lettre aux Hébreux, l'élément essentiel de notre humanité est la compassion. Le fait de souffrir avec les autres, il s'agit de la véritable humanité. Ce n'est pas le péché, car le péché n'est jamais solidarité, mais il est toujours une désolidarisation. La véritable humanité est de participer réellement à la souffrance de l'être humain. Cela veut dire être un homme de compassion. Il dit, ben voilà, ce n'est pas l'idéal d'humanité où on imagine... L'homme, c'est celui qui est fort, etc., qu'on peut admirer. Non, c'est d'avoir ces qualités intérieures qu'on retrouve quelque part dans les béatitudes. Hein, ces qualités de... c'est ce qui fait qu'on est vraiment humain. Bon, je ne vous lis pas tout, mais c'est relativement long, cette méditation de Benoît XVI, mais très belle. Ce qui est intéressant et que relève Raniero Cantalamessa toujours sur cette humanité, c'est l'obéissance de Jésus. Hein, on voyait pour Sartre où il a l'impression que tant que Dieu existe, lui, il ne peut pas exister. Mais ce n'est pas ça. Justement, Jésus, et s'il est mort par obéissance sur la croix, c'est pour montrer que justement, cette union à Dieu, elle se fait dans l'obéissance. Et ce n'est pas au détriment de l'homme. L'homme nouveau, c'est celui qui vit sous la dépendance totale et absolue de Dieu et il trouve sa force, sa joie et sa liberté. Alors, il s'appuie sur des citations de Saint Jean. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, dit Jésus, alors vous saurez que je suis... et que je ne fais rien de moi-même, et que je parle selon ce que m'a enseigné le Père. L'être du Christ s'enracine dans sa soumission au Père. Saint Paul, vous voyez, dans l'Épître aux Corinthiens, en particulier dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul nous dit « Les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons un Christ crucifié, stupidité pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas la sagesse. On est très attaché à la liberté. Très attaché à la liberté, mais une liberté, pas une liberté selon Dieu. Et alors, on pourrait dire, les hommes d'aujourd'hui cherchent la liberté et l'indépendance. Et nous, nous prêchons un Christ obéissant jusqu'à la mort, puissance de Dieu et liberté de Dieu. Hein? Pour montrer le... Pardon ? Nous, on est tellement attachés à notre liberté que, voilà, on ne peut pas comprendre que ça ne va pas contre le fait d'être vraiment homme que d'obéir. On a l'impression d'annihiler notre nature humaine en obéissant, mais non. Alors, il ne s'agit pas d'obéir de manière complètement aveugle, etc. On peut tomber aussi dans des excès, mais de voir que notre véritable humanité n'est pas en contradiction avec le fait d'obéir. Mais alors, là, c'était la première partie, c'est Jésus vrai homme. La deuxième partie, ça sera pourquoi Jésus s'est fait homme. Il avait tout à y perdre. Hein. Alors pourquoi? Pourquoi Jésus? Elle ne sera pas très très longue. La troisième partie, ça sera plutôt l'unité dans la personne du Verbe de Dieu, fait homme. Comment ça s'harmonise, ou s'harmonise, je ne sais pas, c'est pas le bon mot, mais comment ça marche ensemble, l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie ou quelque chose? Comment ça marche? Ça sera relativement long, cette troisième partie. Et la dernière partie, ça sera sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce que signifie cette expression? Alors, pourquoi le Verbe s'est fait chair? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si ça empêche beaucoup les gens de dormir, mais au Moyen-Âge, ils se posaient des tas de questions. Si l'homme n'avait pas péché, est-ce que Dieu se serait fait homme? Est-ce qu'il serait incarné? Alors, quelle est votre réponse, là? Alors, il y a une réponse assez sage qui consiste à dire « on ne sait pas, mais de fait, dans la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous a donné, on met toujours en lien le fait de l'incarnation avec le fait qu'il vienne nous sauver. » De fait, c'est comme ça que ça apparaît dans la parole de Dieu. Vous pourrez aller voir et puis... Mais si vous allez dans le catéchisme, le catéchisme donne quatre raisons. Il y a un traité qui a été très célèbre, qui est paru en 1098. Ça vous dit quelque chose? Cur Deus Homo. Cur Deus Homo. Pourquoi Dieu s'est fait homme? C'était le titre d'un ouvrage de Saint Anselme. C'est Saint Anselme qui est... Mais voilà, il se posait plein de questions. Alors, quatre motifs pour l'incarnation. Premier, pour sauver l'homme du péché. Alors, je peux vous... quelques versets, peut-être. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. S'il est envoyé dans le monde, c'est pour nous sauver. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et alors, dans le credo que vous dites le dimanche, en tout cas celui de Nicée-Constantinople, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il approcha de la Vierge Marie et s'est fait homme. Pour nous les hommes et pour notre salut. Donc la première, le premier motif, c'est pour nous sauver du péché. Alors vous pouvez aller voir dans le catéchisme, c'est les numéros 457 et suivants. C'est le premier motif. Deuxième motif. Ah oui, d'ailleurs, un des critères qui a guidé les pères de l'Église, c'est de se dire, si Dieu n'avait pas pris toute notre humanité, on n'aurait pas été tout entier sauvé. Hein, ce qu'il disait, l'homme ne serait pas sauvé dans sa totalité si le Christ n'avait pas assumé l'homme dans sa totalité. Donc, je suis sauvé pas seulement dans mon corps, qui est appelé à la résurrection, mais dans ma psychologie, dans mon intelligence, dans ma volonté, parce que Jésus a pris vraiment... non seulement un corps, mais une psychologie humaine, une volonté humaine, une intelligence humaine. Donc voilà, parce que Jésus a voulu nous sauver tout entier, il s'est fait homme tout entier. Alors, ça c'était la première raison pour nous sauver. Pourquoi il s'est fait homme? Pour nous sauver. Deuxième raison, pour nous montrer qu'il nous aimait. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. C'est la démonstration par excellence de l'amour de Dieu pour les hommes. Un jour, je vous l'ai peut-être déjà raconté, j'étais avec un de mes neveux, il avait peut-être 15 ans à l'époque, et... on se promenait et je ne sais pas, il m'a impressionné. Il me dit, en fait, moi, ça ne m'impressionne pas trop la résurrection de Jésus. Mais le fait qu'il soit fait chair, alors là, ça m'impressionne parce qu'il a tout à y perdre. Pourquoi Dieu s'est-il fait chair? C'est vrai que pour les Grecs, c'est une stupidité de se faire chair. Alors qu'on est, on n'est pas dans les contingences matérielles et tout, on n'est pas limité par la matière et tout ça. Et puis, et je trouvais que c'était intéressant. Du coup, ça montre qu'il nous aime pour. Et il a voulu, oui, vraiment. Ou alors, Benoît XVI le dit d'une autre manière. Le fait de l'incarnation de Dieu qui se fait homme comme nous nous montre le réalisme inouï de l'amour divin. L'action de Dieu, en effet, ne se limite pas aux paroles. Il se contente pas de nous dire « je t'aime ». Il prend notre corps et notre humanité. Cette manière d'agir de Dieu est un puissant encouragement à nous interroger sur le réalisme de notre foi qui ne doit pas être limité au domaine du sentiment, des émotions, mais doit entrer dans le concret de notre existence. Dieu ne s'est pas arrêté aux paroles, mais nous a indiqué comment vivre en partageant notre propre expérience, à l'exception du péché. Voilà. Donc la deuxième raison, c'est le Verbe de Dieu s'est incarné pour nous révéler l'amour de Dieu. Troisième raison. Peut-être que vous voulez me les dire directement. Non. Troisième raison, pour nous montrer le chemin et nous donner l'exemple. Alors, on l'a évoqué un petit peu avant. Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté. Et quelque part, avant de nous donner les béatitudes, il les a vécues, Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, voilà, quelque part, c'est notre modèle à suivre et il nous montre le chemin de la vraie humanité, comme on l'a dit. La vraie humanité, c'est pas de s'imposer et puis d'écraser les autres et de dépasser les autres. L'humanité, c'est d'aimer. Et quatrième raison, il s'est incarné pour nous révéler le Père et nous introduire dans la vie de Dieu, pour nous rendre participants de la nature divine, comme dit saint Pierre. Alors, c'est donc il nous révèle son Père, jusque-là la Trinité, avant que Jésus, avant que le Verbe se fasse chair, on ne connaissait pas la Trinité. Il y a quelques allusions dans l'Ancien Testament, mais c'est des allusions qui ne parlent pas beaucoup si on n'a pas plus. Donc il vient nous révéler son Père. Il s'est fait homme pour nous faire Dieu. C'est ce que dit saint Athanase, par exemple. Dans cette deuxième partie, je voulais évoquer un peu, et je vais revenir à Benoît XVI, donc de Jésus comme médiateur, comme unique médiateur. Alors, s'il s'est fait homme, c'est aussi pour être des deux côtés, en quelque sorte. Alors, je vais reprendre quelques phrases de Benoît XVI. Alors, c'est saint Paul qui nous dit que... Alors, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et alors, donc, je vous cite encore Benoît XVI, toujours à cette catéchèse du 18 février 2010... Un prêtre, pour être réellement médiateur entre Dieu et l'homme, doit être homme. Cela est fondamental. Et le Fils de Dieu s'est fait homme précisément pour être prêtre, pour pouvoir réaliser la mission du prêtre. Il doit être homme. Mais il ne peut pas seul devenir médiateur de Dieu. Le prêtre a besoin d'une autorisation, d'une institution divine, et ce n'est qu'en appartenant aux deux sphères, celle de Dieu et celle de l'homme, qu'il peut être médiateur, qu'il peut être un pont. Telle est la mission du prêtre, allier, relier ces deux réalités apparemment aussi séparées, c'est-à-dire le monde de Dieu et le monde humain. Voilà. La mission du sacerdoce est d'être médiateur, un pont qui relie et ainsi conduire l'homme à Dieu, à sa rédemption, à sa véritable lumière, à sa véritable vie. Donc, c'est là qu'il dit, comme premier point, donc, le prêtre doit être du côté de Dieu. C'est pourquoi ce mystère était nécessaire. Le Fils de Dieu se fait homme afin qu'il existe un véritable pont, qu'il existe une véritable médiation. Alors, pour les prêtres, bon, c'est un peu différent, mais justement, c'est par l'ordination sacerdotale, parce que leur Dieu les habilite en quelque sorte à être ce pont. Et alors, c'est un appel pour les prêtres à être des hommes de Dieu. Alors, donc, le prêtre doit être du côté de Dieu, et le prêtre doit être homme, dans tous les sens, etc. Donc, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Donc, mais j'aime bien. Pourquoi Dieu s'est fait homme ? Mais aussi pour être médiateur entre Dieu et l'homme. Et c'est en sa personne que c'est saint Paul qui dit en sa personne, il a tué la haine, il a réconcilié, etc. Donc Jésus qui est vraiment ce médiateur et ce pont, surtout entre Dieu et l'homme. Ça va, hein ? Alors, troisième point, comment s'harmonise en Jésus l'humanité et la divinité et l'unité de la personne du Verbe de Dieu ? Alors là, il y aura 8 points là-dessus. Ça va ? J'irai relativement vite. Alors, le premier point, c'était Jésus vrai homme. Hein, et ce que ça signifie, c'est justement, pas dans le péché, etc., mais l'humanité dans toute sa beauté. Le deuxième, c'était plutôt pourquoi Dieu s'est fait homme. Et puis, dans cette partie, j'ai parlé un peu du médiateur. Et la troisième partie, c'est le lien entre l'humanité et la divinité en Jésus. Quelle unité ? Je vous lis un article du catéchisme encore, vous pourrez vous y référer, hein, mais l'événement unique et tout à fait singulier de l'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme, ni qu'il soit le résultat du mélange confus entre le divin et l'humain. Il s'est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi, l'Église a dû la défendre et la clarifier au cours des premiers siècles face à des hérésies qui la falsifiaient. Et les apôtres, qui étaient juifs, ne voulaient pas renier leur foi en un Dieu unique aussi. Hein. Pour eux, c'était clair que Dieu était unique. Mais du coup, voilà. Alors, les premières hérésies... c'est pas la peine de noter tous les points, je vais pas vous les. Enfin, vous faites comme vous voulez. Elle nie quelque chose de son humanité. Alors, il y en a qui disent. Oui, il y en a qui... Alors, il y a plein de sortes d'hérésies, mais vous connaissez tous ces noms, Paul de Samosate, ou Eutyches, tout ça, ça vous dit quelque chose. Bon, je ne vais pas rentrer dans les... Il y en a donc, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, il y en a qui imaginaient que, voilà, pour accomplir sa mission, voilà, le Verbe de Dieu arrive, il se met... un déguisement humain, il fait sa mission et puis il part avant la croix. Donc il y a différentes manières de nier quelque chose de sa vraie nature humaine. Il y en a qui parlent d'un corps céleste, du corps qui n'était qu'une apparence. Voilà. Du coup, c'est quand même du temps perdu d'apprendre à parler tout ça. Donc il arrive à l'âge adulte et puis il repart au moment de la croix. Parce que, alors après, il y a toutes sortes... Après, parce qu'il dit, En creux, je trouve que c'est intéressant de voir, de dire que Jésus, il a pris notre humanité quand même, avec la lenteur de notre humanité, il a quand même pris 30 ans de vie cachée. Pourtant, il était doué. Hein. Nous, on aime être un peu efficient et tout ça, mais Dieu réagit pas forcément comme nous. Hein, et il n'a pas les mêmes critères que nous. Du coup, voilà. Alors, du coup, eux, ils disent non, il faut qu'il soit déjà adulte. Parce que dans l'Antiquité, l'enfant n'était pas, c'était pas l'enfant roi comme maintenant aussi. Hein, donc, une autre conception de l'enfant. Donc, on va quand même d'aller jouer avec ces jeux. On va faire des jeux. C'est du temps inutile. Donc, allez. Et alors. Alors après, il y en a, il y a l'adoptionnisme. Alors c'est, en fait, Jésus c'était un homme, c'est pas vraiment Dieu à ce moment-là. C'est un peu un balancier, ça part d'un côté, de l'autre côté. Et puis, non, c'est pas vraiment Dieu, mais au baptême, il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui. Donc voilà, il a eu la potion magique. Et puis il a fait l'œuvre de Dieu, et puis voilà. Donc, c'est une autre manière encore de présenter les choses. Où après, il y avait des vraies difficultés aussi pour lire la parole de Dieu. Parce que dans Saint Jean, il y a un moment, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Alors, Arius dit « Non, non, Jésus, en fait, c'est une créature, ou plus ou moins une créature, et il n'est pas vraiment Dieu. » Alors, mais l'hérésie arienne a eu beaucoup, beaucoup de succès. Hein, donc, on voit beaucoup qui ont lutté contre cette hérésie. Donc, il y a eu ces différentes hérésies. Et après, il y a une autre série d'hérésies, qui aboutit au fait de faire deux personnes en Jésus. Il y a la personne divine et la personne humaine. Non, il n'y a qu'une personne, mais alors, l'hérésie nestorienne voyait dans le Christ un Nestor, vous connaissez Nestor, hein, les nestoriens, une personne humaine conjointe à la personne divine du Fils de Dieu. Donc, il n'y a pas vraiment d'unité dans la personne du Fils de Dieu à ce moment-là. Alors, du coup, les conciles, ils se sont réunis. L'humanité du Christ n'a d'autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Et c'est pour ça qu'on peut dire de Marie qu'elle est Théotokos. Bien sûr que Marie n'a... Théotokos, c'est mère de Dieu. Bien sûr que Marie n'a pas donné à Jésus sa divinité, ça c'est évident. Mais il n'y a qu'une personne en Jésus, et cette personne est divine. Donc, Marie a donné son humanité à Jésus, mais comme Jésus est divin, donc on peut dire de Marie qu'elle est mère de Dieu. Alors après, on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Alors qu'est-ce que je peux vous retrouver comme hérésie? Il y en a plein. Hein. Alors, il faut reconnaître deux natures sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. C'est pas si simple que ça, hein, parce que pour certains, la nature humaine est comme absorbée par la nature divine. Et du coup, Jésus n'est plus parfait en humanité. C'est les monophysites, il y en a encore qui est aujourd'hui. Hein, alors voilà ce qu'écrivait Maritain. Ce serait plutôt une sorte de Dieu déguisé. Voilà. Alors, ce que dit le catéchisme, dans l'union mystérieuse de l'incarnation, la nature humaine a été assumée, non absorbée. Il y a Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ça veut dire qu'il a vraiment une pleine humanité aussi, Jésus. Alors, on parle de l'hypostase, mais je vous épargne tous les noms qui ont été employés. Ce qui est important, c'est de fait, ils ont employé les mots qu'ils avaient, les mots qu'ils avaient à leur disposition pour essayer de décrire au mieux. Alors quelquefois, c'était les controverses, c'était plus sur le langage, se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on mettait derrière les mots. Hein, donc ça, c'était. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on voit dans la réalité derrière. Est-ce que alors, il y a un mot qui est revenu dans le credo, là, avec la nouvelle traduction, non pas de même nature que le Père, mais consubstantiel au Père. Alors pourquoi c'était revenu ? Parce que de même nature, c'est trop faible comme expression. Alors, consubstantiel, il y a les 9/10 des gens qui se demandent ce que ça veut dire, ce mot-là, mais en même temps, c'est beaucoup plus précis. Alors, donc c'est important, c'est de trouver les mots pour parler de notre foi, pour dire. Alors on peut faire une application pour la connaissance du Christ. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Alors comment Jésus connaissait ? Alors ce que je veux dire, c'est qu'il avait une connaissance humaine, une connaissance divine. Vous savez tout, là, pas de problème. Et en même temps, une connaissance humaine. Alors comment dans... Il n'y a qu'une personne. Comment ça fonctionnait en Jésus ? Parce que alors c'est plein de questions parce que en même temps nous on a un peu de mal à se représenter parce qu'on se dit mais s'il connaît tout, il connaît tout et puis mais alors s'il connaît tout, il n'avait pas besoin d'apprendre à lire et écrire avec Marie. Donc il est vraiment homme, donc il a vraiment appris aussi, il a vraiment cette science expérimentale, cette connaissance expérimentale. Donc, on ne peut pas en faire abstraction.
Mais au moment de la passion, il est vraiment homme, la divinité est masquée.
Alors, oui, alors ça c'est un autre moment, c'est plus... Et là, au niveau de, à la fois de la connaissance, mais à la fois de la volonté, au niveau de la volonté de Jésus. Certains, alors une autre hérésie, c'est le monothélisme. Le monothélisme, si vous voulez un catalogue d'hérésie, mais le monothélisme consistait à dire qu'il n'y avait qu'une volonté en Jésus, et que la volonté humaine était absorbée en quelque sorte dans la volonté divine. Non, il y a deux volontés, une volonté divine et une volonté humaine. Mais justement, au moment de l'agonie, on voit bien comment cette volonté humaine entre dans la volonté de Dieu. Ça se fait dans la personne de Jésus. Alors, nous, on a un peu de mal à comprendre comment ça peut fonctionner, à s'imaginer peut-être, mais sinon, si elle est absorbée dans la volonté divine, il n'a pas de mérite, c'est trop facile, en quelque sorte. Mais il est vraiment homme, Jésus. Il a vraiment une volonté d'homme, il a vraiment une intelligence d'homme, il a dû apprendre aussi. Alors, il avait peut-être plus de facilité que nous. Mais il a dû apprendre. Alors, il y avait aussi il y en a dans son intelligence humaine, il parle de la science infuse. Hein, quelquefois aussi, quand on est inspiré par le bon Dieu, d'autres parlent de la vision béatifique. Donc, il avait des dons particuliers, on pourrait dire. Mais il a appris aussi. Hein, il a appris. Parce que c'est un vrai homme. Jésus, c'est un vrai homme. Et on ne mesure pas toujours à quel point... sinon la tentation, elle n'aurait eu aucune prise sur lui s'il n'était pas un vrai homme. Alors, une prise, Jésus n'a pas succombé à la tentation, hein, vous comprenez bien. Mais en même temps, ça n'a pas été... Ce n'était pas un parcours de santé. De toute façon, c'était gagné d'avance, non ? Quelque part, il y avait ce chemin pour que son humanité soit pleinement, c'est tout le mystère de son obéissance au Père, son humanité soit pleinement accordée à sa divinité. C'est le, on pourrait dire, le, et l'agonie est mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, c'est aussi cette connaissance humaine où là, dans sa connaissance humaine, il ne voit pas son Père. Alors, beaucoup, habituellement, on évite de parler habituellement. Alors après, il y a des opinions théologiques variées, mais habituellement, on ne parle pas de la foi pour Jésus. On ne dit pas que Jésus avait la foi parce qu'il avait la vision béatifique, semble-t-il. Bon, moi, je ne suis pas un théologien très savant et tout ça, mais du coup, mais n'empêche qu'il y avait, voilà, il a fait nuit, pas seulement dehors, mais aussi sur l'intelligence de Jésus. Parce que Jésus, justement, au moment de la croix, il a pris sur lui les conséquences de notre péché. La conséquence ultime de notre péché, c'est d'être séparé de Dieu. Alors, dans la réalité, Jésus n'a jamais été séparé de Dieu. Mais dans sa psychologie, il a pu éprouver d'être séparé de Dieu. Il a pu l'éprouver. Mais toujours, sa volonté humaine s'est ajustée à sa volonté divine, on pourrait dire, et c'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça, c'est ce fait de voir cette unité dans la personne de Jésus, du Verbe de Dieu. C'est aussi, alors je vous ai parlé du corollaire, c'était de pouvoir dire de Marie qu'elle était mère de Dieu. Et on peut dire aussi c'est pour ça aussi que dans la, vous connaissez peut-être la querelle des images. Alors il y en a qui sont passés au feu pour ça. Pas les images, les gens. Parce que, alors dans l'Ancien Testament, on ne peut pas représenter Dieu. On ne peut pas représenter Dieu. Alors il y avait les partisans des deux côtés. Mais du coup, c'est notamment Saint Jean Damascène qui a défendu les images. Pourquoi on peut faire une image? Parce que Dieu s'est incarné, justement. Et quelque part, au-delà de cette image, on peut voir alors, je vous cite, je ne sais pas si c'est dans le catéchisme, je crois que c'est dans le catéchisme. Les particularités individuelles du corps du Christ expriment la personne divine du Fils de Dieu. Il a fait sien les traits de son propre corps humain au point que, peints en une image sacrée, ils peuvent être vénérés. Parce que le croyant qui vénère l'image vénère en elle la personne de celui qu'elle représente. Donc c'est pour ça qu'on peut représenter aussi Jésus et au-delà de l'image, prier Jésus. Ça va? Alors, une dernière partie rapide sur l'expression « fils de l'homme ». Ça va? Alors, vous pourrez, entre autres, mais je l'ai vraiment abrégé parce que c'est Benoît XVI a bien une dizaine de pages dans son livre sur le titre de « Fils de l'homme ». Mais en faisant simple, c'est le titre que Jésus emploie le plus souvent pour parler de lui-même. Souvent, il parle de lui à la troisième personne, le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, le Fils de l'homme, etc. Viendra sur les nuées du ciel, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les Juifs qui l'entendaient, ils voyaient à quoi ça se référait. Fils de l'homme, alors c'est très paradoxal, mais pour nous, on dit, voilà, c'est Dieu fait homme. Mais pour les Juifs, non. C'est plutôt le Fils de l'homme, c'est plutôt en quelque sorte un être divin ou en tout cas proche de Dieu. Donc c'est presque le contraire pour nous. L'expression « fils de l'homme », c'est plutôt parce qu'elle nous vient du prophète Daniel. Alors, c'est au chapitre 7 du prophète Daniel. « Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » Alors, c'est intéressant de voir aussi dans le livre de Daniel... À quel moment intervient cette figure du Fils de l'homme? Hein, c'est, alors, Daniel voit la succession des grands empires du monde. Alors, il y a quatre bêtes énormes qui sortent de la mer. Elles viennent d'en bas. Hein, et elles expriment le pouvoir qui repose sur la violence, etc. Alors, c'est le point culminant du mal, on pourrait dire, ces bêtes. Et c'est là qu'est donné le Fils de l'homme, justement, qui est vainqueur de ces bêtes. Alors, c'est un langage apocalyptique auquel on est plus ou moins hermétique, je ne sais pas, mais qui est compliqué pour nous. Hein. On n'est pas dans cette culture, donc on a un peu de mal. Mais, en tout cas, donc, les Juifs, quand ils entendent parler de Fils de l'homme, ça leur évoque plutôt cette image de Daniel, de celui à qui est donné domination éternelle, etc. Donc, ce n'est pas un homme... Enfin, c'est pas un homme. Nous, on penserait que ça parle de l'humanité de Jésus, mais ça parle plutôt de sa divinité, paradoxalement, que de son humanité. En tout cas pour nous, hein, parce que. Alors, cette expression de Fils de l'homme, on la retrouve dans différents contextes dans l'Évangile. Alors, quand il est question du sabbat, par exemple. C'est chez saint Marc qui dit « Le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Donc on voit qu'il est, il se place du côté du législateur, hein, voilà, et qu'il est maître et seigneur. Hein. Quand il se donne ce titre, c'est pas pour parler tellement de son humanité, c'est plutôt de parler de son pouvoir qu'il a, qu'il reçoit de Dieu, de son Père. Ou alors... Un autre épisode qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps, c'est le paralytique. Hein, il descend, toc, tes péchés sont pardonnés. Il se prend pour qui de pardonner les péchés? Et alors Jésus, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton mancard et rentre chez toi. Là encore, Fils de l'homme, c'est un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Hein, pour les Juifs, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et puis après, il y a les textes où on parle du Fils de l'homme avec le jugement dernier. Celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Voilà. Donc, on voit que c'est aussi celui qui nous juge. Hein. Donc, c'est pas, ça manifeste plus voilà, sa proximité avec Dieu et son pouvoir divin. Que, voilà. Donc, c'est juste quelques mots sur le Fils de l'homme. Et une petite conclusion. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop noyé dans... si vous voulez une collection d'hérésies, on pourra en donner bien plus. Mais quelque part, je trouve que c'est intéressant de voir aussi l'humilité aussi que ça suppose de notre part d'entrer dans le mystère de Dieu. On voit qu'il a fallu quelques siècles pour mieux comprendre qui était Jésus, pour mieux... Alors nous, on est appelés à s'appuyer sur eux. À s'appuyer sur tous ceux qui nous ont précédés, qui ont réfléchi avant nous, pour ne pas repartir à zéro. Et puis, donc c'est pour ça que la tradition de l'Église est aussi importante, pour pas, on ne va pas réinventer tout à chaque génération. Heureusement qu'il y en a qui ont débroussaillé avant nous et qui ont, voilà. Et alors quelque chose aussi qu'on peut retenir peut-être, c'est que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Souvent, nous, on a tendance à opposer ou tout ça. Et dans la doctrine catholique, habituellement, c'est plutôt et. C'est pas ou. C'est de. Mais alors, c'est pas forcément simple, comme vous l'avez bien vu, de tenir en même temps les deux, à la fois vrai Dieu, à la fois vrai homme. Quelquefois, on absorbe l'humanité dans la divinité, ou on ampute une partie de la divinité de Jésus, ou je sais pas. Mais tenir vraiment les deux en même temps. Comme vous connaissez les deux derniers dons de l'Esprit Saint. Oh ben bien sûr. Oui, et celui d'avant. La crainte et la piété. Ces deux dons qui vont ensemble. La crainte, c'est le sens de la grandeur de Dieu. Et la piété, c'est le sens de la proximité de Dieu. Hein, donc, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, c'est aussi d'avoir les deux en même temps. C'est pas choisir ou l'un ou l'autre. C'est d'avoir aussi ce sens de l'adoration vis-à-vis de Dieu, mais en même temps, ce sens de la proximité amoureuse de Dieu, enfin, qui nous aime. Donc, ça, c'est vraiment dans la doctrine catholique de garder les deux. Et je pense qu'on est vraiment appelé à garder les deux en même temps. Voilà. Et puis, au bout du compte, ben, finalement, de s'émerveiller un peu plus de l'amour de Dieu pour nous.